Après avoir placé les fondements théoriques du débat grâce à cet édito, il nous appartient maintenant d'entrer dans le concret. Je vous invite donc, chers auditeurs, à écouter le sujet du jour. Prenez donc le chemin du collège afin de réfléchir avec nous à cet outil devenu essentiel dans les pratiques de la 6e à la 3e. Je veux parler du socle commun des connaissances et des compétences. C'est un instrument qui a été conçu pour accompagner chaque élève tout au long de sa scolarité afin de mesurer ses acquis et ses progrès. Philippe et Baptiste vont maintenant dialoguer à propos du travail par compétences à partir d'un projet mené par Baptiste dans son établissement. Philippe, je te laisse donc le micro pour analyser cette expérience.
Je me suis penché sur le socle commun des connaissances et des compétences. On m'a tout de suite parlé de tâches complexes. Aussitôt, j'ai cherché dans mes pratiques pédagogiques ce qui pouvait correspondre à cette définition, et j'ai également eu l'occasion d'évoquer le problème avec Baptiste, ici présent, qui m'a parlé du concept de simulation globale. J'ai tout de suite été emballé par ce qu'il m'en a dit, et je souhaitais aujourd'hui faire partager à nos auditeurs cette démarche, qui me semble très intéressante, et pas seulement pour le renseignement des items du socle. Alors avant de commencer, Baptiste, pourrais-tu nous définir brièvement ce qu'est une simulation globale? Et quel projet tu as élaboré cette année dans ce contexte pédagogique si particulier?
Alors, ce dispositif pédagogique s'apparente en fait à un jeu de rôle, avec la particularité que tout est à construire par les élèves, guidés bien sûr par un groupe d'enseignants de disciplines différentes. Ce dispositif a été imaginé et mis en place pour l'enseignement du français langue étrangère, du FLE à l'origine. On part donc du principe que l'élève a des compétences, mais celles-ci sont à transposer dans un cadre différent.
Oui, plus précisément, quels sont les principes de base d'une simulation globale?
Alors, il repose sur deux principes fondamentaux. Tout d'abord, la construction d'un lieu thème, et en deuxième lieu, la construction d'identités fictives. Le jeu consiste alors à faire évoluer ces identités dans ce lieu, avec un mélange, bien évidemment, assez subtil de cohérence et d'invention.
Bon, voilà qui est fait pour les bases, mais pourrais-tu nous parler de ta propre expérience en la matière? Je crois que cette année, tu travailles sur une simulation bien définie. Pourrais-tu nous en retracer les grandes étapes et aussi les différentes formes d'évaluation qui sont proposées à tes élèves?
Alors, pour être clair, effectivement, en classe de 4e, j'ai lancé cette année une simulation globale basée sur le thème de la reconstruction d'un lieu existant, le grand magasin du printemps à Paris, boulevard Haussmann, qui a effectivement brûlé en 1881. Et donc l'idée est de placer les élèves face à cette reconstruction. Tout est à faire par eux. Donc au commencement, on a vu avec eux la façon de planter le décor. Donc il a fallu décrire cet événement déclencheur, cet incendie, avec des images, avec des textes également. On a essayé de travailler à partir de Bonheur des Dames pour leur faire prendre conscience de ce qu'était un grand magasin. Et puis, en leur diffusant également un certain nombre de documents liés à l'époque, pour qu'ils imaginent bien ce qu'était Paris au 19e siècle, ce qui n'est pas évident pour eux, puisque effectivement, ils sont dans une conception qui est basée sur les images qu'ils connaissent, c'est-à-dire que pour certains d'entre eux, je vous l'avoue, au 19e siècle, les gens étaient en noir et blanc et ne parlaient pas. Donc, à partir du moment où on a planté ce décor, à travers un certain nombre de documents, comme je l'ai dit, il s'agit d'habiter ce décor, c'est-à-dire que les élèves doivent se trouver un personnage, une personnalité fictive. Pour cela, on a tiré au sort un métier, et ils ont chacun créé leur livret d'ouvrier, comme effectivement au 19e siècle, de façon à exister dans ce nouvel univers. Ensuite, il s'agit de créer des interactions et des événements entre les différents intervenants. Par exemple, on peut faire en sorte que les personnages se consultent pour le projet de construction, pour imaginer le magasin idéal. Il y a effectivement un certain nombre de travaux à faire sur l'architecture et l'art du 19e siècle. Donc bien sûr, on évoque Haussmann, on évoque Eiffel, un certain nombre de mouvements artistiques. L'idée est également de concevoir des plans d'architecture, éventuellement des vues dessinées, des cartes, avec donc le concours du professeur d'art plastique, du professeur d'histoire-géographie, du professeur de technologie. On organise également des réunions de chantier sous forme de jeux de rôle, et pour l'instant le chantier n'est pas terminé, mais ça prend une tournure assez intéressante. Voilà à peu près où on en est pour le moment.
On voit tout de suite que la simulation donne naissance à des projets de taille, et certainement de qualité, mais se pose alors la question des finalités, et surtout des productions qui sont demandées aux élèves.
Alors l'objectif principal est la création de situations de communication nouvelles et originales qui permettent une implication de tous les élèves indépendamment de leur niveau scolaire. Les productions peuvent être très diverses, hein, comme je le disais, aussi variées que dans la vie réelle et associées à des activités plus scolaires, écrites comme orales. qui sont alors perçues par les élèves comme moins artificielles, du fait de l'adhésion des élèves et de leur identification. De plus, le fait que les productions ne soient plus nécessairement en lien direct avec une seule discipline permet une bien meilleure utilisation de toutes les ressources disponibles.
Alors justement, un sujet, n'oublions pas le fil directeur de nos émissions, les TIS. As-tu été amené à les utiliser pour développer ton projet? Et si oui, quels outils, quelles ressources?
Alors l'outil informatique effectivement a joué un rôle important, mais principalement au niveau de la recherche documentaire. En tout cas pour moi, pour élaborer le projet, c'était absolument indispensable et complexe. Les informations nécessaires à la création du lieu cadre, à son insertion dans une époque, ainsi qu'à la création des identités, sont autant de pistes de recherche qui sont sous-tendues par le besoin de cohérence et de vraisemblance. Ainsi donc pour ce chantier de la reconstruction du printemps 1881, de très nombreuses recherches sur les métiers, les lieux, les innovations technologiques ont dû être menées au préalable.
Très bien, mais je m'aperçois qu'il y a même une question à laquelle tu n'as pas répondu précisément. J'aimerais savoir quelle place tu donnes à l'évaluation et surtout quelles sont les modalités de cette évaluation.
Alors le nombre de productions évaluées, ainsi que les modalités, doit faire l'objet d'une préparation rigoureuse, mais peuvent également être plus spontanées et plus individualisées, c'est l'avantage de ce genre de dispositif, de façon à valoriser la réussite des élèves sans se focaliser forcément sur la performance simultanée d'un ensemble, d'une classe. De plus, l'élève profite de plusieurs types d'évaluations, selon les enseignants impliqués dans le projet, qu'il s'agisse de notes ou d'autres formes d'évaluation.
Alors on va essayer de préciser un petit peu ce terme d'évaluation, notamment à travers ce que rappelait Serge tout à l'heure, le socle commun. Explique-nous comment une simulation globale peut permettre de valider ce socle.
Bien, l'immense avantage, c'est que tout dans la simulation globale est de l'ordre de la tâche complexe. Elle privilégie bien sûr la mise en œuvre de compétences qui impliquent des connaissances précises et appliquées à la situation. Les professeurs ont alors bien sûr à identifier les compétences et les connaissances mises en œuvre pour pouvoir les évaluer régulièrement en vue de leur validation. On parvient ainsi à construire, à développer et à évaluer la place de l'élève au sein d'un groupe et son autonomie. Le fait de mettre en contexte les apprentissages et les connaissances constitue en soi un travail par compétence, dont le but principal et les objectifs secondaires sont clairement identifiables par l'élève.
Très bien, mais pas de langue de bois. Dis-moi, quelles sont les limites, quels sont les inconvénients d'une simulation globale ?
La première difficulté, je ne te le cache pas, ça repose sur la gestion du temps. Qu'il s'agisse du temps entre collègues pour coordonner le projet, pour faire coïncider l'intervention des différentes disciplines avec l'avancée des différents programmes, mais aussi du temps en classe qui échappe plus facilement dans ce genre de dispositif. En effet, les élèves ont tendance à étendre le champ de la simulation dans toutes les directions, même dans celles qui n'étaient pas prévues par le professeur à l'origine. C'est en fait donc deux difficultés qui coexistent, savoir recadrer la classe d'une part pour aller dans une direction et une seule, mais également savoir s'effacer pour laisser vivre cette simulation. Bon, en plus, les élèves ont du mal à admettre le caractère ponctuel de la simulation dans la semaine. Effectivement, les cours plus traditionnels peuvent risquer de perdre un peu d'intérêt à leurs yeux. Donc il faut qu'on veille à ça, effectivement. De même, le fait d'endosser une autre personnalité peut s'avérer problématique pour certains élèves. Soit parce qu'ils sont réfractaires et fermés à cette expérience, soit au contraire, ils peuvent avoir des difficultés à sortir du jeu, ou même carrément admettre difficilement la fin de la simulation.
Alors j'aimerais conclure avec toi en prenant un petit peu de recul, et en évoquant le point le plus important aux yeux de tout enseignant. Quels bénéfices tirent les élèves de la simulation globale, tant dans les connaissances acquises, dans les compétences, et aussi dans leur attitude?
Alors les avantages d'une simulation globale sont nombreux. Ils reposent en fait sur une meilleure adhésion des élèves. En effet, la simulation instaure une dynamique de projet dans laquelle la notion de compétence devient presque évidente. Elle permet également une plus grande motivation des enseignants comme des élèves, du fait notamment du croisement des disciplines. Enfin, par le biais des identités fictives, les élèves osent davantage dépasser leur image. Ils parviennent à se décentrer pour être plus efficaces dans le travail qu'ils mènent. Ils sont plus ambitieux également, plus précis ou plus communicants. Ils se permettent donc de mettre en œuvre leurs compétences personnelles pour en acquérir de nouvelles. Et il me semble que c'est sans doute une définition possible du verbe apprendre. Et je propose pour ça peut-être d'écouter le témoignage de certains élèves qu'on a pu recueillir.
C'est en fait, on doit se penser à ce qu'on serait dans une autre époque, par exemple dans le passé, et on doit se comme téléporter un peu. Et puis comme ça, après on fait une histoire. Puis là, c'est sur un magasin, et puis c'est la simulation globale, quoi. C'est pas pareil, en fait, là il y a un petit peu de légèreté, on a le droit de parler, on a le droit de se déplacer, et puis on va sur internet aussi, c'est bien. Ah bah il y a des fois c'est dur hein, quand même, hein, parce que Perso, moi je suis ferronnier, alors pour trouver des sites sur internet ferronnier, c'est pas très très facile.
Avec la simulation globale là, qu'on fait actuellement, bah, on apprend des trucs, par exemple sur des métiers, puis c'est amusant, puis sérieux à la fois. Moi j'ai tiré au sort et j'ai été maçon. Pour l'instant on n'a pas encore mis en pratique, mais on va simuler.
Chacun a son
innovation,
métier et puis on
ambition, motivation
on va
des élèves et des enseignants.
Comme ils disaient avant.
Voici les maîtres mots de cette simulation globale que vient de nous décrire Baptiste.
Derrière avec Nopal et Kerry, vu que c'est aussi les deux autres architectes, on va faire des plans et puis
on distingue clairement les
on va demander
du socle,
à Nicolas
chez les élèves,
qui fait la sécurité, si ça va bien et tout.
D'autonomie,
ça.
Ouais. De coordination.
Non, c'est mieux parce qu'on apprend autant de choses, mais on est plus libre et tout, donc ça y est. Qu'on arrive à faire un truc bien.
Parce qu'on est des employés, non, des ouvriers au 18e siècle. En 1800, non, 19e siècle, en 1800 et quelques. On voit le français, mais différent au 19e siècle. Il y a des différences, après il y a l'écriture, la façon de s'exprimer, tout. Ça change. Là, pour l'instant, on va essayer de reconstruire le printemps. On va y arriver. On va s'aider.
Qu'est-ce que c'est un magasin en 1881? Et puis ça a l'air un peu dur par rapport aux recherches, mais après on s'amuse bien. Parce que c'est mieux que un cours normal, parce qu'on est ensemble, puis les travaux ça nous réunit en fait. Et puis on s'aide mutuellement et puis moralement et tout.
C'est un cours sans être un cours quoi en gros. On apprend mais on se renseigne sur le métier ou... après on va devoir faire des dialogues pour simuler qu'on reconstruit le bâtiment.
C'est mieux la simulation globale que les cours en français normal. Oui, c'est plus prenant que les cours normal. On s'investit un peu plus déjà, pour qu'on soit concentré quand même.
On doit faire croire qu'on fait quelque chose comme si on était dans leur peau, aux gens qui ont fait ça. Hein ? C'est quand même du boulot de faire la simulation. Je sais pas, c'est quand même du boulot à faire. Ça se fait pas en une semaine.
Innovation, ambition, motivation des élèves et des enseignants, voici les maîtres mots de cette simulation globale que vient de nous décrire Baptiste. Et derrière l'aventure pédagogique dont les intervenants ne méconnaissent pas les difficultés dans cette présentation, on distingue clairement les compétences du socle sollicitées chez les élèves en termes d'expression, d'autonomie et de coordination des efforts et de culture personnelle.
Les souris et les...